Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. 6 ans après l'Odyssée, son film sur la famille Cousteau, 9 ans après Zoulou, le réalisateur de Largo Winch retrouve Caryl Ferret pour un scénario de thriller palpitant au cœur de la Russie. Une vie qui bascule, une descente aux enfers, une fuite et une traque haletante, celle d'un homme victime d'un compromat, une accusation montée de toutes pièces par le FSB, les services secrets russes, à base de faux documents compromettants destinés à l'éliminer. Une pratique sans pitié, souvent utilisée par le KGB contre les représentants étrangers à l'époque de la guerre froide, qui visait plutôt ces dernières années les opposants politiques russes eux-mêmes. Dans le film, c'est un Français incarné par Gilles Lellouche qui en est la victime. L'histoire est d'ailleurs librement inspirée d'un fait réel. Compromat, le nouveau film de Jérôme Salle, sort mercredi prochain sur les écrans français. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Jérôme Salle.
Bonjour.
L'histoire est censée se passer en 2017. Le film a été tourné avant donc le déclenchement de la guerre en Ukraine. Il résonne évidemment d'une façon particulière avec nos yeux d'aujourd'hui. Vous avez été un petit peu rattrapé par l'actualité ?
Oui, complètement. En fait, j'allais dire malheureusement, parce que je pense que c'est quelque chose que j'avais pressenti, qu'il y avait, disons, quand même une tension qui est en train de se créer en voyageant, en allant en Russie. Et oui, malheureusement, ce sentiment que j'avais eu s'est révélé vrai. Oui.
Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé au compromat ?
Alors, en fait, au départ, je me suis intéressé. Moi, j'ai découvert la Russie de manière très professionnelle, puisque, en fait, vous parliez de Largo Winch tout à l'heure. Il se trouve que Largo Winch, les deux ont été des grands succès en Russie. Donc, je suis allé là-bas à plusieurs reprises pour faire la promotion des Largo Winch. C'est comme ça que j'ai découvert la Russie, qui, évidemment, je vais enfoncer des portes ouvertes, un pays fascinant. Mais j'ai aussi découvert, en fait, les différences culturelles qu'il y avait, et j'ai découvert aussi ce qu'était ce pays, le regard qu'une partie de la Russie, évidemment, parce que je ne voudrais pas généraliser, mais une partie de la Russie, et celle qui aujourd'hui est au pouvoir, le regard qu'ils portaient sur nous. Et ça m'a frappé, parce qu'en fait, je trouvais que nous, on vivait un peu dans une forme d'innocence, en fait, avec notre voisin. Et lorsque j'ai entendu parler des compromats, et surtout lorsque j'ai entendu parler du fait que ça pouvait aussi arriver à un étranger résident là-bas, je me suis dit, ah ben là, vraiment, il y a peut-être une histoire à raconter.
Alors là-bas, en l'occurrence, c'est donc Irkoutsk. Irkoutsk, c'est en Sibérie, et le personnage principal du film, qui s'appelle Mathieu Roussel, est le responsable de l'Alliance française là-bas à Irkoutsk. Il est incarné par Gilles Lellouche, qui avait d'ailleurs fait votre premier film, je crois, Anthony Zimmer. Vous
il
avez tout de suite
rôle.
Pensé à lui.
Alors j'ai tout de suite pensé à lui. Oui, parce que alors c'est vrai qu'on se connaît, enfin on se connaissait pas très bien en fait. On avait travaillé ensemble avec Gilles, on s'est croisé à plusieurs reprises. Il avait un petit rôle dans Tony Zimmer, il jouait l'adjoint de Sammy Frey. En fait, j'ai tout de suite pensé à lui parce que je cherchais alors évidemment qu'il y a les qualités de Gilles comme acteur qui je trouve se bonifie pour moi avec le temps. Ces dernières années, vraiment, j'ai vu une évolution dans son travail et j'avais besoin de quelqu'un qui soit très français.
Et Gilles, il est très français, Gilles.
Gilles très
ça
français.
Veut dire quoi, très français pour un cinéaste? Être très français devant une caméra,
mais
ça veut
c'est
dire
vrai.
Quoi
mais c'est pas devant une caméra. En l'occurrence, Gilles est très français dans ses agacements, dans sa sympathie, dans sa chaleur, dans son amour de la vie, dans plein de choses. Donc il dégage quelque chose de très français. Et donc ça, je trouvais ça intéressant. Et puis il a un autre truc, il y a un rêve pour un réalisateur, et on cherche tout ça chez les acteurs, c'est qu'il accroche, il déclenche l'empathie.
Oui.
Et moi, c'est quand même l'histoire d'un type qui est seul, qui est poursuivi.
Oui.
Donc en fait, j'avais besoin d'un acteur où je sois certain, quand il serait tout seul à travers la Russie poursuivi, que le spectateur soit totalement en empathie avec lui.
Oui, et c'est vrai qu'on est tout de suite avec lui, hein, d'un bout à l'autre du film. Vous le filmez souvent d'assez près. Il a un jeu très dense, très, très humain. C'est très étonnant parce qu'il est à la fois solide et fragile. Je dirais que c'est un personnage à la fois très simple et très dense. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On est vraiment sur la corde entre les deux.
Oui, mais parce qu'en fait, alors moi, je voulais aller chercher chez Gilles, et je lui en avais parlé dès le début, chez lui, la tendresse. Gilles est quelqu'un de très tendre. Donc en fait, il y a un contraste chez Gilles, mais que je trouve extrêmement intéressant. C'est quelqu'un qui dégage une force physique. C'est un type costaud. Et en même temps, il y a une vraie tendresse. Et
oui.
Moi, ce que je voulais, c'est dégager cette tendresse et dégager cette fragilité. Donc avoir cette masse, ce bonhomme, c'est un bonhomme, Gilles. Et en fait, je voulais faire ressortir cette tendresse. Mais comme quand il fait un film comme Pupille, en fait. C'est-à-dire, et je trouvais ça intéressant d'avoir cette facette-là de Gilles dans un thriller.
Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Johan Barbero, qui a travaillé comme justement responsable, en tout cas qui a travaillé à l'Alliance française d'Irkoutsk en Sibérie et qui a vécu quelque chose qui ressemble quand même énormément au scénario du film. Est-ce qu'il y a un lien direct ou pas?
Alors, pour être très clair, ce n'est pas du tout une adaptation du livre de Barbero, puisqu'en fait, moi, j'ai commencé à écrire avant ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit très librement inspiré d'eux, c'est-à-dire que effectivement, ça a participé aux
à la construction du personnage.
Voilà, exactement, à la construction du personnage, à la construction du récit. Le fait, ça arrive. C'est très librement inspiré, en fait. Mais ce n'est pas du tout une adaptation du bouquin de Yann Barbereau.
Bonjour Fabienne, comment allez-vous ?
Bonjour Mathieu, ça va et vous ?
Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Très bien.
Merci.
Papa !
Comment tu jettes ? Comment ça va ?
Tu restes avec moi aujourd'hui ?
Moi je peux pas, mon cœur.
Вы обвиняетесь в распространении детской порнографии в интернете.
Не может быть. Не может быть.
Tout le dossier est constitué de faux, plus ou moins grossier.
Compromettre ?
Hmm? Pourquoi contre Mathieu ? Qu'est-ce qu'il leur a fait ?
Je voudrais avoir des nouvelles de ma fille aussi. Je veux voir Alice. C'est tout ce que je demande.
Quelqu'un sait que vous êtes là ? Personne ne doit savoir, ni les Russes, ni la presse, personne.
Il manque toi de pas moi.
Je te présente, Svetlana.
Je ne vais pas mettre en péril nos relations avec la Russie pour vos beaux yeux. Hors de question d'approuver une opération clandestine pour vous faire quitter le territoire.
On peut se pérécier sur la границe.
La seule solution, c'est de vous rendre aux autorités russes.
Mais je suis innocent, bordel !
Jérôme Salles, ce qui est frappant d'un bout à l'autre du film et nos auditeurs, je pense, se rendre compte en écoutant cette bande-annonce reformatée, on l'a un peu reformatée pour les besoins de la radio, c'est le climat de violence. Il y a la violence physique, parfois, il y a aussi la violence psychologique qui est présente dans le film, pas seulement sur le personnage de Gilles Lellouche, mais sur tout le monde, quoi, sur l'ensemble de la société russe. Est-ce que tout est violent en Russie ?
Non, mais d'abord, je n'ai pas la prétention de connaître tout de la Russie. Donc,
Allé sur place.
Non, bien sûr, j'y suis allé à plusieurs reprises. Et ensuite, quand j'ai eu le projet du film, d'ailleurs, je suis allé même derrière Irkoutsk, où se situe le début de l'action. Donc, bien sûr, on s'est pas mal baladé. Et puis, j'ai travaillé avec des Russes. Je travaille avec des acteurs russes qui sont d'ailleurs formidables dans le film. C'était un grand bonheur. Ils ont des acteurs magnifiques.
Ils ont des sacrées gueules de Russes, pour le coup.
Et c'est des acteurs incroyables. Ouais. Et c'est qui travaillent avec à la fois un talent, un professionnalisme et une liberté. Il y a une espèce de folie dans leur jeu de laisser aller qui est absolument fascinant. Donc non, mais c'est vrai que je pense que dans l'occurrence, je ne suis pas le seul à le dire, mais il y a une violence systémique en Russie, vraiment, qui existe à l'école, qui existe à l'armée, qui existe... Et c'est difficile, en fait, qui s'impose au pays. Mais on voit très bien, d'ailleurs, dans le film, que les premières victimes de cette violence systémique et de ce pouvoir en place, c'est le peuple russe, en fait, qui subit ça.
Et cette violence, peu après son arrestation, donc Mathieu Roussel, qui est le nom du personnage joué par Gilles Lellouche, la prend en pleine figure quand il s'entretient au parloir avec son avocat russe et une représentante de l'ambassade de France.
Oui, lors de son interrogatoire, votre femme vous a accusé de l'avoir violentée, elle et votre fille. Elle a déposé plainte contre vous et demandé la protection de la police.
La protection,
oui. Vous mentez !
Mathieu,
quel... Oh, ma mère, Michel! Pourquoi ça? J'ai jamais levé la main sur ma femme, ni sur ma fille, Michel. Vous me connaissez, merde, enfin, quoi? Ça veut dire quoi, ça?
Pourquoi crier, monsieur Rosset? Votre femme dit ça.
C'est qui ce type? C'est qui ce type?
Maître Borodine est le meilleur avocat de la ville. Vous allez avoir besoin de lui.
Je veux voir Alice, c'est tout ce que je demande. Je veux voir ma femme, c'est tout ce que je demande.
Et c'est un acteur russe, Alexei Gorbunov, qui joue l'avocat, maître Borodine.
Ukrainien.
Ukrainien.
C'est un sujet un peu sensible en ce moment.
Ah bah oui, vous faites bien effectivement de préciser. Donc il est russophone, en tout cas.
Bien sûr, mais pas du tout
francophone.
Comme la plupart des Ukrainiens, voilà. Il est totalement russophone. Ouais. Mais en l'occurrence, je crois d'ailleurs même qu'il n'a pas le droit de mettre... Enfin, même avant que la guerre ne se déclenche, il n'avait déjà pas le droit de mettre les pieds en Russie.
Oui, mais alors, donc il n'est pas du tout francophone. J'ai lu qu'il avait appris son texte phonétiquement, c'est vrai ?
Oui, absolument. Non, il n'est pas du tout francophone, mais en fait, c'est ça que je trouvais amusant. Après, c'est que justement, j'ai joué avec ça. Mais oui, non, il ne parle pas non plus anglais, ce qui rendait parfois le dialogue un peu compliqué. On ne pouvait parler, ce qui est un peu parfois frustrant, que par des traducteurs interposés.
Oui, alors justement, c'est la question que j'allais vous poser, parce que vous n'avez pas tourné en Russie, faut le préciser.
En Lituanie.
En Lituanie, pourquoi ? C'était trop compliqué, là aussi ?
Ah, trop oui. En fait, non, mais moi, j'aurais adoré tourner en Russie. Et en fait, j'ai caressé cette idée pendant un moment. Et en fait, on m'a déconseillé. Je pense que ça aurait été compliqué. Oui.
Mais donc, vous avez tourné en Lituanie avec des acteurs russes, français, ukrainiens, donc pour le coup, avec l'actrice principale, Joanna Kulik, qui est polonaise et qui joue dans le film en russe et en français. Ce côté tour de Babel, là, ça doit être compliqué à gérer, non ?
Ouais, mais moi, j'aime bien. En fait, j'ai souvent fait dans les films, je l'ai fait avec Zulu, je l'ai fait avec les Largouines, etc. En fait, je crois que je suis fasciné par ça et j'aime le mélange des cultures et j'aime, alors je l'aime quand je raconte des histoires, mais je l'aime sur les plateaux aussi en fait. Moi j'aime bien, j'ai adoré travailler avec ces acteurs russes, j'ai trouvé exceptionnel, j'ai adoré ces rencontres. Bon, Joanna Kulig est une actrice exceptionnelle. J'aime beaucoup, voilà, j'aime cette ouverture d'esprit que ça provoque en fait.
Mais est-ce que c'est pas trop cloisonné du coup sur le tournage ? Parce qu'en plus, c'était la période du Covid, Jérôme Salle et Gilles Lellouche en interview raconte qu'il l'a ressenti de façon assez dure, quoi. Tout le côté en dehors du tournage, dialogue, bonne bouffe avec l'équipe, etc. Il n'y a pas eu ça.
Alors oui, je voudrais pas jouer. Je fais un métier de rêve, donc ça me paraît très déplacé de me plaindre. Oui. Mais c'est vrai que le tournage a été dur. Parce qu'en fait, effectivement, on était dans les débuts du Covid, que du coup, on ne travaillait que masqué. Et surtout, effectivement, qu'on n'avait droit à aucune interaction sociale le soir. C'est-à-dire qu'en fait, quand on sortait du plateau, c'est des longues journées, c'est 12 heures par jour quand même. On ne pouvait pas aller boire un coup ensemble, on ne pouvait rien faire, on rentrait dans notre chambre et puis basta. Pareil pour les week-ends. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, nerveusement, c'est un peu dur. Mais en l'occurrence,
il faisait pas chaud en plus.
Il faisait pas chaud, non. Mais en l'occurrence, je pense que sur le... Alors moi, comme réalisateur, je suis un peu dans mon tunnel, si vous voulez. Donc bon, je peux vivre et puis je suis un sauvage. Mais Gilles, qui est quelqu'un justement qui est dans le partage, qui a besoin de voir des gens, ça a été une douleur pour lui.
Mais en même temps, ça sert aussi son personnage.
Mais c'est exactement ça. Et je pense qu'il lui-même le dit et le sait. D'ailleurs, ça a servi aussi le travail sur son personnage. Cet isolement que subit le personnage dans le film, il l'a quelque part vécu.
Alors, ce n'est pas un film anti-russe, on le disait tout à l'heure, mais c'est un film qui montre en tout cas l'emprise du FSB, hein, donc le nouveau KGB, hein, y compris à l'échelle locale, puisque l'un des personnages, qu'ils appellent Dmitri Rostov, est le chef local du FSB. Et c'est aussi le beau-père de Svetlana. Alors, Svetlana, on n'en a pas encore parlé, c'est le personnage joué par Joanna Kulig, qui est prof de français et qui travaille avec l'Alliance française. C'est dans ce cadre-là qu'elle rencontre le personnage de Mathieu Roussel, et c'est elle qui va l'aider dans sa fuite, et pas qu'un peu. Nouvel extrait.
Putain, j'y pense tous les jours, je me pose la question. Qu'est-ce que j'ai pu dire ? Qu'est-ce que j'ai pu faire ? J'en sais rien, je te jure, je sais pas. Si, il y a ce type que j'ai croisé, c'était au bar, là où on dansait, tu viens ?
Dmitri Rostov. C'est le chef du FSB à Irkoutsk. C'est mon beau-père. Je le déteste.
Elle le déteste, effectivement. Alors, si le personnage s'appelle Svetlana, c'est pas complètement un hasard, je crois. C'est un hommage à Svetlana Alexievitch, disait Kéryl Ferré, votre co-scénariste.
Alors, oui, c'est vrai, mais c'est son idée. Donc, je vais lui laisser cette
Svetlana
idée.
Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature biélorusse. Alors, évidemment, c'est très romanesque de se faire aider dans une histoire par la fille du chef du FSB quand on a le FSB à ses trousses. Bon, elle est quand même très charmante, Joanna Kulig. Il fallait introduire une histoire d'amour aussi à l'intérieur de ce bras de fer, de cette traque un peu politique, voire géopolitique.
Ouais, il faut rien en fait. Il faut rien dans l'absolu qu'on va raconter une histoire. Il y a aucune obligation. Moi, j'ai un amour du. Comment dire ? Moi, je fais un cinéma populaire, en fait. J'aime raconter des histoires aux gens et j'essaie de raconter des histoires à des gens nombreux, en fait. J'aime vraiment prendre les gens par la main et les emmener. Donc, je raconte des histoires qui sont souvent assez romanesques et une des choses qui nous mobilise tous les jours, qui nous fait faire plein de trucs, parfois plein de bêtises, c'est l'amour, entre autres.
Alors, elle est prise entre son beau-père, donc patron local du FSB, et son mari. Très intéressant, le personnage du mari, Jérôme Salle. C'est un vétéran, c'est un ancien combattant de la guerre en Tchétchénie. C'est un homme brisé. C'est un homme qui est un peu coincé, finalement, entre son papa et sa femme qu'il aime. Mais c'est compliqué à vivre, ça, dans son quotidien.
Oui, mais il parle aussi de cette culture machiste, culture de la force, justement, qu'il y a en Russie. Et lui, c'est un homme qui a été... On voit des photos de mariage où ils sont beaux, tous les deux, magnifiques. Et puis, effectivement, il a fait la campagne de Tchétchénie, il a été diminué physiquement et on sait qu'il s'en remettra jamais et il subit ça, il n'est plus qu'un demi-homme d'une certaine manière et c'est quelque chose qui pour lui est impossible par rapport effectivement à ce que la société lui demande d'être. Donc ça, il permet de parler de ça. Donc il y a une dimension évidemment extrêmement tragique dans la vie de ce couple.
Alors évidemment la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ce fameux compromat, pourquoi est-ce que les services russes ont-ils voulu faire tomber cet homme. Et c'est aussi la question que se posent non seulement les spectateurs, mais aussi l'ambassadeur de France et son entourage, en présence en plus de l'intéressé. La scène se passe dans la deuxième partie du film, on est dans une salle sécurisée de l'ambassade. Je crois que c'est important de le préciser, et c'est un grand moment du film.
C'est quand même dingue que le FSB mette autant d'énergie pour faire tomber un simple directeur d'Alliance française. Pourquoi ?
Attendez, mais... vous me demandez pourquoi vraiment là ? Qu'est-ce que vous insinuez par là ? Comment ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais qu'est-ce que j'en sais de pourquoi, moi ? Je sais pas pourquoi. Parce que j'aime pas la chasse, parce que je me déguise en princesse quand je joue avec ma fille, parce que j'aime regarder des spectacles où il y a deux hommes qui s'embrassent, parce que vous leur avez pas fourgué les putains de porte-hélicoptères, je ne sais quoi, parce que j'ai dansé avec la belle-fille d'un type du FSB, voilà pourquoi. Je sais pas, parce qu'ils détestent ce que je suis, ils aiment pas ce que je suis, voilà pourquoi.
La colère de Mathieu Roussel, alias Gilles Lelouch, face à Louis II de Langsaint, qui a une vraie tête d'ambassadeur de cinéma, Jérôme Salle. C'est ça, au fond, finalement, ce film qu'on promate. C'est un problème culturel, quoi. C'est deux visions du monde et deux visions de la virilité.
Oui, oui, bon, même au-delà de la virilité, c'est deux visions du monde, en fait, qui sont totalement différentes. Et moi, j'avais été aussi frappé en allant en Russie. Enfin, c'est aussi la naïveté. Bon, après, je voyage pas mal, pour plein de raisons, mais parfois la naïveté des Français, en fait, sur « Ah, mais les gens ne pensent pas tous comme nous ?» Ah, mais en fait, le monde n'est pas à notre image partout. Non, il y a des gens qui pensent différemment. Donc, il faut se poser des questions là-dessus. Il faut entendre et parfois entendre la colère aussi qui nous entoure. Donc oui, en tout cas, je pense que Poutine et les gens qui l'entourent, oui, détestent ce qu'on est. Ça ne fait aucun doute, oui. Et ce n'est pas les Russes qui détestent ce qu'on est. C'est les gens qui, aujourd'hui, sont en pouvoir aussi, ont un agenda. Et cet agenda, c'est qu'ils détestent ce qu'on est, oui.
Donc c'est un film, effectivement, qui permet aux spectateurs de se poser des questions. C'est un film de personnages qui pose de vraies questions psychologiques, notamment. C'est aussi une histoire d'amour, on l'évoquait tout à l'heure, entre un homme et une femme en l'occurrence, et c'est un film d'action, puisque c'est quand même un film avec une traque, avec un suspense, il y a des scènes absolument magnifiques dans des personnages, dans des paysages enneigés, et la traversée d'un lac, enfin on va pas tout raconter, mais c'est vraiment... Comment équilibrer justement toute cette dimension entre le film de suspense et d'action, et la dimension plus politique, voire psychologique ?
Alors, moi, c'est vrai que j'ai. Alors, on parlait de Karel Ferret, puisqu'en fait, on s'est rencontrés sur Zulu. Donc, c'est moi. Zulu, par exemple, était un film avec une histoire policière très classique, d'une certaine manière, et qui parlait du pays, qui parlait de la vengeance, en fait, du pardon, en fait, de la capacité de pardonner. Donc, l'Afrique du Sud est évidemment le pays idéal pour ça. Moi, j'aime ça. J'aime faire, justement, je disais tout à l'heure, un cinéma grand public, un cinéma d'aventure, des films de cinéma où on a envie d'aller voir ce grand écran. Et je crois que j'espère que c'est le cas de Compromat. Mais j'ai besoin aussi que ça parle du monde dans lequel je vis. Voilà, et donc parce que sinon ça ne m'intéresse pas. Et donc à chaque fois, j'essaye d'avoir ça. Mais même quand je fais des Largo Winch, en fait, j'essaie de parler du monde dans lequel je vis. Je veux dire, bah tiens, aujourd'hui, le centre à l'époque c'était Hong Kong, on va parler de ça. C'est d'avoir aussi plusieurs couches de lecture dans les histoires. C'est ça qui me semble intéressant.
Merci beaucoup, Jérôme Salle, d'être passé par les studios de RFI. Compromat à découvrir donc sur les écrans à partir de mercredi prochain.
Merci beaucoup.
Dans tes yeux, je vois. Le monde autrement dans tes yeux et va tout mon amour en grand dans tes yeux je vois comme j'ai pas vu avant ton regard mon enfant est le plus beau des présents t'as fait de moi un papa je n'en reviens même pas Eve t'as fait de moi un papa de moi un papa. Je n'en reviens même pas. Eva, t'as fait de moi un papa.
Eva, le nouveau Kenji Girac dans VMDN.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Et pour le premier café gourmand de la saison, Fanny Blechner, Amélie Bocour et Edmond Sadaka sont avec nous. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors Fanny, on s'était quitté à la fin de la saison dernière au Festival de Théâtre d'Avignon, dans le sud de la France. Et à ce moment-là, vous en avez profité pour faire un petit crochet pas loin du tout.
Oui, à Arles, où se tiennent les rencontres de la photographie. Ça a commencé donc en juillet, ça se termine dans quelques semaines. Un rendez-vous international et j'ai rencontré le grand photographe ghanéen James Barnor. C'est sa première rétrospective en France et ça s'appelle Stories.
Au menu également de la musique avec vous, Edmond. Vous avez eu la chance de rencontrer un grand nom de la musique cubaine.
Oui, il s'appelle Roberto Fonseca, il est pianiste et demain, eh bien, le public français, parisien en l'occurrence, va pouvoir l'écouter dans le cadre du festival Jazz à la Villette.
Mais on commence avec vous, Amélie, de littérature. Alors, je ne sais pas si vous avez les uns et les autres des petits frères ou des petites sœurs autour de la table, mais le livre que vous nous présentez aujourd'hui, Amélie, commence par l'arrivée d'un nouveau-né dans une famille en Tanzanie, une naissance qui ne réjouit pas franchement la petite dernière.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, nous sommes le 10 janvier 1989 à Dar es Salaam. Adi et sa sœur Dina sont nés au Zaïre, dans l'actuelle République démocratique du Congo. C'est pour ça qu'on a entendu Kofi Olomide, mais les parents ont déménagé pour le travail et la mère d'Adi se retrouve enceinte ou, selon Adi qui a 6 ans, son ventre se retrouve habité par un esprit malveillant qui l'a fait souffrir et l'a fait gonfler comme un ballon. Alors quand il vient au monde, cet esprit, c'est tout sauf une bonne nouvelle, même si toute la famille a l'air de trouver ça un miracle.
Quand l'esprit est sorti du corps de maman, il ne respirait pas. Il était incapable d'aspirer l'air, m'explique Dina, car jusque-là, il avait vécu dans l'eau. Papa assure qu'il a prié, mais les médecins disaient que l'esprit avait des problèmes respiratoires et que maman avait trop saigné. Les médecins étaient certains qu'il allait mourir, et maman aussi. Papa avait veillé toute la nuit du jeudi et avait fortifié son âme en remplissant son être de mots, tous les synonymes du mot foi, confiance, sens, conviction, promesse, autorité, espoir. Puis il avait empli l'hôpital de son chant. « Dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai vu mon père », déclare papa en fermant les yeux. « Et vendredi matin, comme par miracle, l'état de votre mère et de votre sœur s'était stabilisé. » Maman berce l'esprit qui a toujours du mal à respirer. Dina a le regard fixé sur les exercices de mathématiques que papa veut qu'elle finisse. Dina se contente de tracer des ronds dans son cahier, mais papa ne remarque rien. Son maillot de corps dévoile la marque étrange qu'il a sur l'omoplate. De longues lignes verticales et un cercle au centre, comme l'endroit où une branche d'arbre serait autrefois sortie d'un tronc. « Je ne cesse de penser aux dernières paroles qu'il m'a adressées », poursuit papa les yeux fermés. « Lumbambulu », c'est le mot qu'utilise toujours papa pour nous faire entrer dans son récit. « Lumbambulu », c'est une planche en langue Chiluba.
Et derrière cette histoire, il y a une version adulte de la jeune demoiselle qu'on entend penser dans cet extrait. Elle s'appelle Kayom Poyi, elle a 36 ans et comme son personnage, elle a grandi en RDC, elle a déménagé en Tanzanie et à nouveau comme son personnage, elle a eu très tôt envie de raconter des histoires. Ce roman, il s'appelle « Dieu est un garçon noir à lunettes » et c'est son tout premier. Il est traduit en français depuis une semaine, mais il a déjà reçu le prestigieux prix Catapulte en 2020.
Qui a l'habitude de propulser les auteurs.
Exactement. Le prix Catapulte, c'est celui qui récompense les premiers romans en Suède. Alors, pourquoi en Suède, Jean-François ? Parce qu'elle y vit depuis qu'elle a 10 ans. Alors, avec tous ces déménagements et toutes ces cultures différentes, je lui ai demandé la langue dans laquelle elle préférait justement s'exprimer. Et au téléphone, depuis Stockholm, dans un français quasi parfait, elle tente une réponse.
Ah, ça c'est une bonne question. C'est très drôle pour un enfant comme moi, parce que comme je quitte le Congo, beaucoup de gens qui sont congolais parlent lingala, mais nous sommes des Baluba, donc mes parents parlaient Chiluba. Avec les autres Congolais, on parlait lingala. À la maison, on parlait le Chiluba et français. À l'école, on parlait l'anglais et swahili. Et c'est pourquoi les livres écrits comme c'est écrit, mais je pense que c'est aussi bien parce que ça, c'est une réflexion d'une personne comme moi et de l'histoire que j'écris.
Ça fait 5 langues, hein, si vous avez compté Chiluba, Lingala, français, anglais, swahili et suédois.
Respect.
Elle est pas mal.
Alors ce roman, Amélie, qui raconte donc l'enfance de la petite Adi, est-ce qu'il est complètement autobiographique ?
Non, pas à 100%, et heureusement d'ailleurs, hein, parce qu'Adi raconte avec des yeux d'enfant des choses qui nous horrifient, nous, avec nos yeux d'adultes, et qui cachent en filigrane un certain nombre de traumatismes. Kayom Poyi m'a raconté qu'elle avait toujours ressenti, dans son cercle familial, quelque chose de sombre, quelque chose qui clochait, sans vraiment comprendre d'où ça venait. Alors en reprenant les personnages et les mythes familiaux, elle explore des scénarios différents.
Ce n'est pas seulement ma famille qui a des histoires de violence comme ça, et avec les parents et les enfants. Et je me demandais pourquoi ça c'est comme ça, et je me demandais aussi, parce que je vois aussi qu'il y avait beaucoup de shame, beaucoup d'histoires de honte qui est vraiment dans les corps, de génération après génération. Je voulais étudier ça, et j'utilise les gens que je connais, et avec ça, j'ai appris beaucoup de choses. D'abord, j'ai peut-être trouvé des réponses de mes questions. Une question, c'était peut-être c'est normal qu'il y ait des familles comme pour moi, à des histoires comme ça, parce que la grand-mère de mon père, qui était mort en captivité, c'était une histoire qui suit dans la famille. Et à cause de ça, les enfants qui ont le nom de cette grand-mère, ils vont mourir.
Alors son arrière-grand-mère effectivement est morte alors que le Congo était une colonie belge. Alors naturellement, les cicatrices de la colonisation sont très présentes dans la famille.
Oui, et cette légende d'un prénom maudit, il perdure. Et c'est évidemment le nouveau-né qui va le porter, ce prénom. Au fond, cette histoire, elle va servir de thérapie à Kayom Poyi. Dans son écriture, elle mélange donc autobiographie, fiction, réalisme magique. On a la foi chrétienne de ses parents qui va se heurter à un animisme plus ancien et aux croyances fantastiques d'une petite fille rebelle. Vous y croiserez aussi Kofi Olomide, Mami Wata ou Michael Jackson. Vous y lirez des mots en Chiluba, en anglais ou en Swahili. Et ces multiples références, elles viennent aussi du métier qu'elle exerce à Stockholm. Kayom Poyi, elle est bibliothécaire. Ou en tout cas, elle l'était parce qu'une longue carrière d'écrivaine, visiblement, s'offre à elle.
Dieu est un garçon noir à lunettes, le premier roman de Kayom Poyi, paru aux éditions La Belle Étoile. Alors comme promis Fanny, on va donc parler avec vous aujourd'hui d'un grand nom de la photographie. Vous êtes en effet allé, on le disait tout à l'heure, aux rencontres d'Arles dans le sud de la France, plus précisément à la fondation Luma, et vous avez eu la chance de rencontrer James Barnor.
Oui, James Barnor, il est Ghanéen, il a 93 ans et il semblait en quelque sorte prédestiné à la photographie.
My mother's big brother was a photographer.
Le grand frère de ma mère était photographe, mon cousin était photographe à plein temps en studio. Il avait un studio comme tout le monde en avait, mais pas un studio dans une pièce pour prendre des photos en intérieur, parce qu'il n'utilisait pas de lumière artificielle. Donc quand un client venait, il était pris en photo dehors. Je suis venu pour voir comment mon oncle travaillait, mais il voyageait beaucoup. Plus tard, j'ai rencontré un autre cousin et nous avions un autre oncle qui était aussi photographe, mais lui ne vivait pas à la maison. J'ai vu beaucoup de photographes, mais je ne crois pas que ce soit ce qui m'a attiré. Je ne sais pas. À un moment, j'ai voulu être photographe au sein de la police. Quand il y a un accident, il arrête les véhicules, il stoppe tout le monde et il photographie la scène. Mais mon objectif, ça a d'abord été d'être enseignant et aussi agriculteur.
Il y a un objectif pour un photographe, c'est très important. Ce n'est pas vous et moi qui allez me dire le contraire. Et pourtant, il n'est pas devenu agriculteur, Fanny.
Mais non, entrer dans la police, il a bien failli. Il venait de postuler, mais il a arrêté à ce moment-là du matériel photo de son oncle qui venait de prendre sa retraite.
Et il commence donc par de la photo de studio.
Oui, en extérieur, comme on l'a entendu. Et on découvre dans cette exposition, qui est sa première rétrospective en France, ses portraits réalisés au sein du studio Ever Young à Accra. Par exemple, une photo de bébé à quatre pattes sur un lit avec un faux décor à colonnes en fond, ou bien cette célèbre photo d'un yogi en pleine contorsion. Ce qui est intéressant aussi dans cette exposition, c'est qu'on découvre les documents de James Barnard, qui a tout conservé, donc c'est une mine d'or aujourd'hui. En l'occurrence, pour cette photo, on voit des indications de retouche avec différents codes couleurs qui accompagnent la photo. Et puis, à partir de 1950, James Barnard, il devient l'un des premiers photoreporters locaux du Daily Graphic. Et bien là, bien sûr, la démarche n'est pas la même.
Attendre que les gens viennent se faire photographier, c'est assez différent de trouver quelque chose à photographier parce qu'il faut qu'il y ait un objectif. Ça ne peut pas être n'importe quoi, à moins que ce soit un homme politique, mais même si c'est un sportif, il faut prendre une photographie sportive.
Et James Barnard, il va rendre compte à travers ses photos des mouvements politiques et sociaux de son pays, donc le Ghana.
Oui, il photographie notamment le leader indépendantiste Kwame Nkrumah en 57 lors d'une cérémonie pour l'indépendance en compagnie de la duchesse de Kent, ici cachée derrière un éventail, elle qui représente l'ancienne puissance coloniale britannique.
Et justement, Barnard va aussi partir en Angleterre en 1959.
You know, when you are a colonial person, you always want to go and see the...
Vous savez, quand on est Ghanéen, on veut forcément aller voir la mère patrie et comment les choses se passent dans le pays des hommes blancs, les équipements, etc. J'ai rencontré un homme blanc, un Anglais, qui était aussi photographe. Il s'est comporté avec moi comme un frère parce qu'il allait partir au Nigeria. C'est là que ma vie a changé. Il travaillait pour Kodak et il m'a dit « Je peux trouver un endroit où dormir. Tu vis avec moi, je peux te donner à manger, mais si tu veux, tu peux venir avec moi. »
Et c'est comme si quelqu'un vous ouvrait grand les portes, c'est ce qu'il vient de dire à l'instant. Il part donc au Nigeria, mais aussi au Ghana, le temps de quelques séjours. Il fait alors plusieurs découvertes.
The color, green, brown, all the colors are in cocoa.
La couleur, vert, marron, il y a toutes les couleurs dans la production de cacao. Et ça avait aussi une visée éducative, parce que les gens consomment du cacao en Europe, partout. Et ils ne savent pas d'où ça vient, comment c'est planté, comment le grain a poussé, et comment il est préparé avant d'arriver en Europe.
Et finalement, Fanny, James Barnard va passer 10 ans à Londres.
Oui, il photographie la diaspora ghanéenne, notamment de jeunes mannequins. C'est un mix entre de la photo de rue et de la photo de mode. Il y a des stars aussi, comme un boxeur un tout petit peu connu. Je ne sais pas si vous avez une idée.
Mohamed Ali.
Voilà. Et puis surtout, il va suivre une formation à Ken pour maîtriser la photo couleur.
When you overexpose, the transparency will be light.
Si on surexpose, la transparence va être légère et on perd de la couleur. Et si on sous-expose, on ne peut plus rien y faire, ce sera foncé. Les couleurs seront là, mais à l'agrandissement, on se rend compte que ce n'est pas bon. Donc ça a changé mon approche technique.
Et il se trouve que le développement des photos couleurs en ce moment-là, en 70, eh bien, ça n'existe pas au Ghana.
Oui, alors Agfa le recrute pour ouvrir le premier labo photo couleur du pays. Et puisque l'exposition s'intitule Stories, je lui laisse nous parler d'une photo en particulier. On y voit une femme portant une robe verte devant un bâtiment vert, dans l'angle des drapeaux rouges pour l'enseigne Agfa, et puis devant elle, de grosses bonbonnes de plastique, rouges, vertes et blanches.
I got somebody from the shop.
Il y avait quelqu'un du magasin, une femme, et on a emprunté les bouteilles en plastique, rouge, verte, avec du blanc. Parce qu'il faut du blanc et du noir. Pour le noir, pas besoin d'en acheter, parce que n'importe quelle ombre profonde, ça fait du noir. Et le blanc, c'est du blanc. Je faisais des tests avant qu'on commence, parce que si on prend en photo quelqu'un qui va se marier, on peut tout gâcher. Donc ça, c'était le test.
you spoil everything. And so that thing is the test.
Voilà, donc cette photo, elle a servi de test pour en faire d'autres, puisque je n'ai pas le temps de vous retracer toute la carrière de James Barnor, mais sachez qu'il a aussi travaillé pour le magazine sud-africain Drum, réalisé des pochettes d'albums, fait de la musique. L'exposition forte d'une soixantaine de photos et de plusieurs documents annexes, donc, donne un aperçu de tout ça.
Voilà, exposition à découvrir donc à Arles, dans le département du Gard, si je ne me trompe pas, à la Fondation Luma, c'est jusqu'au 25 septembre. Merci Fanny. Alors Edmond, vous allez donc comme promis nous parler de ce pianiste cubain devenu une référence de la musique de son pays. Il est connu partout dans le monde. Il s'appelle donc Roberto Fonseca. C'est sa musique que l'on entend évidemment en ce moment sur RFI. Vous l'avez rencontré cette semaine. Il est de passage à Paris puisqu'il sera en concert demain soir samedi.
Oui, il va se produire dans le cadre d'un important festival de jazz qui a débuté il y a 3 jours et qui va s'achever le 11 septembre. Précisément, il s'agit de Jazz à la Villette. Roberto Fonseca va présenter demain donc un spectacle consacré à l'âge d'or de la musique cubaine. Il restitue dans ce spectacle le décor, l'atmosphère de ces lieux festifs où l'on venait danser le mambo, la rumba ou encore la salsa. Roberto Fonseca.
C'est un spectacle que nous avons voulu créer sur le modèle des cabarets cubains des années 30 jusqu'aux années 60. Le but, c'est que le public puisse revivre la grande magie de la nuit cubaine et surtout la magie des musiques traditionnelles qui accompagnaient ces moments-là. De faire en sorte que les gens puissent danser, se divertir et surtout, et c'est le plus important, qu'ils puissent revivre l'ambiance de ces époques. C'est un projet que j'ai en tête depuis longtemps, depuis mon travail avec le Buena Vista Social Club et l'un de ses grands chanteurs, Ibrahim Ferrer. Cette collaboration m'a vraiment permis de m'imprégner des valeurs de cette musique cubaine. Je suis très heureux de présenter ce spectacle à Jazz à la Villette, que je considère comme l'un des festivals les plus magiques du monde. Jouer ici a énormément d'importance pour moi, car cela nous oblige à toujours donner le meilleur de nous-mêmes. J'ai toujours été reconnaissant à Jazz à la Villette d'ouvrir ses portes à ma musique. Abra sus puertas y sobre todo las puertas de mi música, ¿no?
Alors Roberto Fonseca, Edmond, on le connaît déjà depuis pas mal de temps. Il s'est fait connaître sur la scène internationale il y a un peu plus de 20 ans avec son éternel chapeau noir vissé sur le crâne. Il a démarré donc, on l'a entendu hein, dans l'extrait il y a quelques secondes, avec un groupe qu'on ne présente plus.
Le Buena Vista Social Club.
Énorme, c'est mythique. Formation absolument mythique.
Groupe mythique.
Pas seulement à Cuba.
Non, c'est vrai, elle a fait le tour du monde et donc cette formation est composée de vétérans de la musique cubaine. Grâce à elle, Fonseca est passé donc de l'ombre à la lumière. Il était très proche, il vient de le dire d'ailleurs dans cet extrait, également de l'un des piliers du groupe, le chanteur Ibrahim Ferrer, mort en 2005. C'est lui, Ibrahim Ferrer, qui a le plus influencé Fonseca. Et cette expérience au sein du Buena Vista Social Club, eh bien Roberto Fonseca n'est pas prêt de l'oublier et pour cause.
Fue una experiencia muy 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 bonita. Primero a nivel musical fue algo que aprendí muchísimo.
Le Buena Vista a été une très belle expérience. Sur le plan musical, j'ai évidemment appris énormément. J'ai appris d'abord à maîtriser le tempo, puis l'harmonie, bref, toute la technique musicale. J'ai surtout réussi grâce à eux et surtout grâce à Ibrahim Ferrer dont j'étais très proche à comprendre de l'intérieur la musique traditionnelle cubaine. Et puis le fait de vivre avec eux, de partir en tournée avec eux, de loger dans les mêmes hôtels, de voyager dans les mêmes bus, tout cela m'a enseigné énormément de choses sur cette musique. J'ai toujours dit qu'en travaillant avec ce groupe, c'est comme si je vivais dans une école de musique traditionnelle cubaine. Après la mort d'Ibrahim Ferrer, il y a une quinzaine d'années, cela n'avait plus beaucoup de sens que je continue dans le groupe. C'est lui qui, en réalité, me donnait de l'énergie. Et comme je faisais déjà des disques sous mon propre nom, avec mon propre style, j'ai continué à le faire. Mais aujourd'hui, en 2022, j'ai l'impression que c'est le moment, pour moi, de revenir aux sources et de rendre hommage à Ibrahim Ferrer et à tous les autres grands musiciens cubains.
Roberto Fonseca a commencé très tôt la musique, Edmond. Il avait à peine 8 ans et il a commencé par la batterie.
Et il avait de qui tenir puisque son père était percussionniste, sa mère était chanteuse. Lorsqu'il était enfant, il s'est dirigé vers le piano ensuite et ses parents l'ont inscrit dans une école de musique, comme c'est de coutume d'ailleurs à Cuba. Mais c'est le jazz qui l'attire le plus, alors qu'à l'époque, eh bien, à Cuba, c'est une musique proscrite, une musique qualifiée d'américaine. Bref, pas du tout facile de jouer du jazz à Cuba, ni même d'ailleurs d'écouter cette musique.
Le jazz était interdit dans les écoles de musique à Cuba. On n'y enseignait que le classique. Avec mes camarades de classe, on se retrouvait tout de même pour jouer du jazz, mais il y avait toujours un professeur qui venait nous réprimander et qui nous demandait d'arrêter. Car cette musique, selon lui, n'était pas appropriée au style de l'école. Mais rassurez-vous, tout cela ne m'a pas empêché de jouer à la maison, puisque mes frères jouaient du jazz et d'autres styles comme la soul music. En réalité, à l'école, on a fini par se cacher pour jouer, afin que nos professeurs ne puissent pas nous surprendre.
Et demain, sur la scène de Jazz à la Villette, dans le nord-est de Paris, Roberto Fonseca présentera donc un concert, Edmond, un concert qui sera une sorte de retour aux fondamentaux pour lui. Et pourtant, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce musicien s'est essayé, depuis le début de sa carrière, à de très nombreux styles.
C'est vrai qu'il a marié des genres très différents les uns des autres dans tous ses albums solo, jazz évidemment, mais aussi avec beaucoup d'influences classiques, funk, électro aussi, et surtout, des influences africaines.
La musique africaine...
La musique africaine à Cuba a toujours été omniprésente. Elle nous a beaucoup influencés car nous sommes les descendants d'esclaves du Nigeria et d'autres pays d'Afrique. Tout le monde connaît aujourd'hui la musique afro-cubaine. Beaucoup d'artistes s'en réclament. Elle a toujours été la base de ma musique. J'ai l'intention de poursuivre dans cette direction. Quoi de mieux que de pouvoir s'inspirer de cette musique, puisque nous l'avons à portée de main en quelque sorte.
Voilà Roberto Fonseca qui a collaboré avec une quinzaine de musiciens africains, dont le percussionniste malien Baba Sissoko ou encore la chanteuse malienne Fatoumata Diawara, qui est aussi comédienne et danseuse. Mais c'est dans son album Yo, sorti il y a 10 ans, en 2012 précisément, et qui est l'un de ses plus fameux, que l'on perçoit sans doute le mieux ses influences africaines. Un exemple avec cet extrait, ça s'appelle Bibiza, et on entend justement la voix de Fatoumata Diawara. Voilà Roberto Fonseca qui sera demain à Paris, donc qui va retrouver le public français, un public qu'il aime bien, qu'il connaît bien, puisque c'est en France qu'il a fait donner ses premiers concerts, Fonseca, et il aime beaucoup, il le dit d'ailleurs, jouer en France. C'est une histoire d'amour entre moi et la France, m'a-t-il dit lorsque je l'ai rencontré. Il précise que justement le public français aime les mélodies et que lui, justement, 90% quasiment de son répertoire est basé sur sur la mélodie. Et c'est pour ça, il explique que c'est pour ça qu'il y a ce lien très, très, très fort qui l'unit au public français.
Voilà, il sera donc demain en concert à Paris dans le cadre du festival Jazz à la Villette. Merci Edmond. Voilà la musique de Roberto Fonseca pour conclure ce premier Café Gourmand de la saison. L'occasion évidemment de vous remercier pour votre fidélité. Remerciements également aujourd'hui à Edmond, Sadaka, à Fanny Blechner, à Abélie Beaucourt, à Olivier Roux et Pierre Plantier qui sont derrière la console. Dans un instant, c'est l'heure de l'information, c'est l'heure du journal bien sûr sur RFI. On se retrouve lundi pour parler littérature, cette fois avec Geoffrine Donadieu pour son roman Chienne et Louve paru chez Gallimard. Et vous m'en direz des nouvelles.
Partagez vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.